Thé et tête ou de la science. Partie 8. Socrate. Mais, mon ami, si le jugement vrai et la science étaient la même chose, le meilleur tribunal pourrait-il porter jamais un jugement juste, étant dépourvu de la science ? Il semble donc qu'il y a une différence entre la science et le vrai jugement. Thé et tête. Écoute une chose que j'ai ouï dire à quelqu'un et que j'avais oubliée. Il prétendait que le jugement vrai, accompagné de son explication, est la science, et que le jugement qu'on ne peut expliquer est en dehors de la science, que les objets dont on ne peut pas donner d'explication ne peuvent se savoir, et que ceux qui sont explicables sont seuls scientifiques. Ce sont ses propres termes. Socrate. Assurément. Mais dis-moi par où tu distingues les objets qui peuvent se savoir de ceux qui ne le peuvent pas. Je verrai par là si nous avons entendu l'un et l'autre la même chose. Tête. Je ne sais si je m'en acquitterai bien, mais il me semble que si un autre me le disait, je pourrais le suivre aisément. Socrate. Écoute donc un songe pour un autre songe. Je crois aussi avoir entendu dire à quelques-uns que les éléments primitifs dont l'homme et l'univers sont composés sont inexplicables, que chaque élément pris en lui-même ne peut que se nommer, et qu'il est impossible d'en dire rien de plus, ni pour ni contre, car ce serait déjà lui attribuer l'être ou le non-être, qu'il ne faut rien ajouter à l'élément si on veut parler de lui seul, qu'on ne doit pas même y joindre ces mots « le »,« ce », »,« celui-ci », »,« chaque », »,« seul », ni beaucoup d'autres semblables. Parce que, n'ayant rien de fixe, ils s'appliquent à toute chose et sont toujours, par quelque côté, différents de celles à qui on les joint. Qu'il faudrait énoncer l'élément en lui-même, si cela était possible, et s'il avait une explication qui lui fût propre, au moyen de laquelle on pût l'énoncer sans le secours d'aucune autre chose. Mais qu'il est impossible d'expliquer aucun des premiers éléments et qu'on ne peut que les nommer simplement parce qu'ils n'ont rien au-delà du nom, qu'au contraire, pour les êtres composés de ces éléments, comme il y a une combinaison de principes, il y en a aussi une de nom qui permet alors la démonstration, car celle-ci résulte essentiellement de l'assemblage des noms. Qu'ainsi, les éléments ne sont ni explicables, ni connaissables, mais seulement sensibles, tandis que les composés peuvent être connus, énoncés, et tombent sous un jugement vrai, que, par conséquent, quand on portait sur quelque objet un jugement vrai, mais destitué d'explication, l'âme à la vérité pensait juste sur cet objet, mais ne le connaissait pas, parce qu'on n'a point la science d'une chose tant qu'on n'en peut ni donner ni entendre l'explication, mais que lorsqu'on joignait l'explication au jugement vrai, on était alors en état de connaître, et on avait tout ce qui est requis pour la science. Est-ce ainsi que tu as entendu ce songe, ou de quelque autre manière ? Tête. Comme cela, précisément. Socrate. Eh bien, es-tu d'avis qu'on définisse la science, un jugement vrai, avec explication ? Tête. Tout à fait. Socrate. Quoi donc, tête ? Aurions-nous ainsi découvert en ce jour ce que tant de sages ont cherché depuis longtemps, arrivant, avant de l'avoir trouvé, aux portes du tombeau ? Tête. Pour moi, Socrate, il me semble que cette définition est bonne. Socrate. Il est vraisemblable en effet qu'elle l'est, car quelle science pourrait-il y avoir hors du jugement droit bien expliqué ? Il y a pourtant, dans ce qu'on vient de dire, un point qui me déplaît. Tête. Quel est-il ? Socrate. Celui-là même qui paraît le mieux dit, savoir que les éléments ne peuvent être connus et que les composés peuvent l'être. Théétète. Cela n'est-il pas juste, Socrate? Il faut voir. Aussi bien nous avons pour garant de cette opinion les exemples sur lesquels son auteur s'appuie. Théétète. Quels exemples? Socrate. Les éléments des lettres et les syllabes. Penses-tu que l'auteur de cette opinion eut en vue autre chose lorsqu'il disait ce que nous venons de rapporter? Théétète. Non, rien autre chose. Socrate. Attachons-nous donc à cet exemple et examinons-le. Ou plutôt, voyons si c'est ainsi ou autrement que nous avons nous-mêmes appris les lettres. Et d'abord, les syllabes peuvent-elles s'expliquer? Et les éléments ne le peuvent-ils point? Théétète. Probablement. Socrate. Je pense tout comme toi. Si donc quelqu'un t'interrogeait sur la première syllabe de mon nom en cette manière. Théétète, dis-moi, qu'est-ce que sot? Que répondrais-tu? Théétète. Que c'est une S et un O. Socrate. N'est-ce point là l'explication de cette syllabe? Théétète. Oui. Socrate. Dis-moi de même, quelle est l'explication de laisse? Théétète. Comment pourrait-on te nommer les éléments d'un élément? Laisse, Socrate, est une consonne, un simple bruit que forme la langue en sifflant. Le B n'est ni une voyelle, ni même un bruit, non plus que la plupart des éléments. De sorte qu'on est très fondé à dire que les éléments sont inexplicables, puisque les plus sonores d'entre eux, au nombre de sept, n'ont que la voix et n'admettent aucune explication. Socrate. Ah, voilà donc, mon cher ami, relativement à la science, un point où nous avons réussi. Théétète. Il me semble. Socrate. Quoi? Avons-nous bien démontré que l'élément ne peut être connu et que la syllabe le peut être? Théétète. Il y a toute apparence. Socrate. Dis-moi, entendons-nous par syllabe les deux éléments qui la composent, ou tous, s'ils sont plus de deux, ou bien une certaine forme qui résulte de leur assemblage? Théétète. Il me paraît que nous entendons tous les éléments dont une syllabe est composée. Socrate. Vois ce qui en est par rapport à deux. S et O font ensemble la première syllabe de mon nom. N'est-il pas vrai que celui qui connaît cette syllabe connaît ces deux éléments? Théétète. Sans doute. Socrate. Il connaît donc l'ess et l'eau. Théétète. Oui. Socrate. Que serait-ce si, ne connaissant ni l'un ni l'autre, il les connaissait tous deux? Théétète. Oh, ce serait un prodige et une absurdité, Socrate. Socrate. Cependant, s'il est indispensable de connaître l'un et l'autre pour les connaître tous deux, il est de toute nécessité pour quiconque doit connaître une syllabe d'en connaître auparavant les éléments. Et cela étant, notre beau discours s'évanouit et s'échappe de nos mains. Théétète. Ah oui, vraiment, et tout à coup. Socrate. C'est que nous l'avons mal surveillé. Peut-être fallait-il supposer que la syllabe ne consiste pas dans les éléments, mais dans un je ne sais quoi qui en résulte, et qui a sa forme particulière, différente des éléments. Théétète. Tu as raison. Il se peut faire que la chose soit de cette manière plutôt que de l'autre. Socrate. Il faut examiner et ne point abandonner ainsi lâchement un sentiment grave et respectable. Théétète. Non, sans doute. Socrate. Que la chose soit donc comme nous venons de dire, est que chaque syllabe, composée d'éléments qui s'ajustent ensemble, est sa forme propre, tant pour les lettres que pour tout le reste. Tête, je le veux bien. Socrate, il ne faut pas, en conséquence, qu'elle ait deux parties. Tête, pourquoi ? Socrate, parce qu'il y a des parties. Le tout est nécessairement la même chose que toutes les parties prises ensemble. Ou bien diras-tu qu'un tout résultant de parties a une forme propre autre que celle de toutes les parties ? Tête, oui. Socrate, le tout et le total sont-ils, selon toi, la même chose ou deux choses différentes ? Tête, je n'ai rien de certain là-dessus, mais puisque tu veux que je réponde hardiment, je me hasarde à dire que ce sont deux choses différentes. Socrate, ton courage est louable, Tête. Il faut voir si ta réponse l'est aussi. Tête, sans doute il le faut voir. Socrate, ainsi, le tout diffère du total selon ce que tu dis. Tête, oui. Socrate, mais quoi ? Y a-t-il quelque différence entre toutes les parties et le total ? Par exemple, lorsque nous disons 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou 2 fois 3, ou 3 fois 2, ou 4 et 2, ou 3, 2 et 1. Toutes ces expressions rendent-elles le même nombre ou des nombres différents ? Tête, elles rendent le même nombre. Socrate, n'est-ce pas 6 ? Tête, oui. Socrate, et sous chaque expression, ne mettons-nous pas toutes les 6 unités ? Tête, oui. Socrate, et toutes les 6 unités, n'est-ce rien dire ? Tête, si fait. Socrate, n'est-ce pas dire 6 ? Tête, oui. Socrate, par conséquent, pour tout ce qui résulte des nombres, nous entendons la même chose par le total et toutes les parties. Tête, il y a apparence. Socrate, parlons-en donc en cette manière. Le nombre qui fait un arpent et l'arpent sont une même chose, n'est-ce pas ? Tête, oui. Socrate, le nombre qui fait le stade, pareillement. Tête, oui. Socrate, n'en est-il pas de même du nombre d'une armée et de l'armée, et de toutes les autres choses semblables ? Car la totalité du nombre est précisément chacune de ces choses prises en entier. Tête, oui. Socrate, mais qu'est-ce que le nombre de chacune, sinon ses parties ? Tête, rien autre chose. Socrate, tout ce qui a des parties résulte donc de ses parties. Tête, il paraît que oui. Socrate, il est donc avoué que toutes les parties font le total, s'il est vrai que tout le nombre le fasse aussi. Tête, sans doute. Socrate, le tout n'est donc point composé de parties, car s'il était l'ensemble des parties, ce serait un total. Tête, et il ne paraît pas. Socrate, mais la partie est-elle partie d'autre chose que du tout ? Tête, oui, du total. Socrate, tu te défends avec courage, Tête. Le total n'est-il point un total lorsque rien n'y manque ? Tête, nécessairement. Socrate, le tout ne sera-t-il pas de même un tout lorsqu'il n'y manquera rien ? En sorte que, s'il manque quelque chose, ce n'est plus ni un total, ni un tout, et que l'un et l'autre devient ce qu'il est par la même cause. Tête, il me paraît à présent que le tout et le total ne diffèrent en rien. Socrate, ne disions-nous point qu'il y a des parties, le tout et le total seront la même chose que l'ensemble des parties ?
Théétète. Oui.
Socrate. Ainsi, pour revenir à ce que je voulais prouver tout à l'heure, n'est-il pas vrai que, si la syllabe n'est pas les éléments composants, c'est une nécessité que ces éléments ne soient point des parties par rapport à elle, ou que, si elle est la même chose que les éléments, elle ne puisse pas être plus connue qu'eux.
Théétète, j'en conviens.
Socrate, n'est-ce pas pour éviter cet inconvénient que nous l'avons supposée différente des éléments qui la composent ?
Théétète, oui.
Socrate, mais si les éléments ne sont point les parties de la syllabe, veux-tu m'assigner d'autres choses qui en soient les parties sans en être les éléments ?
Théétète,
je n'accorderai point, Socrate, qu'elle ait des parties. Aussi bien, il serait ridicule d'en chercher d'autres, ayant rejeté les éléments.
Socrate,
suivant ce que tu dis, Théétète, la syllabe doit être une espèce de forme indivisible.
Théétète,
il y a apparence.
Socrate,
te souvient-il, mon cher ami, que nous avons approuvé précédemment comme une chose bien dite, que les premiers éléments dont les autres êtres sont composés ne sont point susceptibles d'explication parce que chacun d'eux pris en soi est exempt de composition, qu'il n'était pas juste, en parlant d'un de ces éléments, de dire qu'il est, ni qu'il est cela, ces choses étant autres et étrangères par rapport à lui, et que c'était la cause pourquoi il ne tombe ni sous l'explication, ni sous la connaissance.
Théétète, je m'en souviens.
Socrate, est-il une autre cause qui le rende simple et indivisible ? Pour moi, je n'en vois point.
Théétète,
il ne paraît pas qu'il y en ait.
Socrate,
si la syllabe n'a point de partie, si elle est une, elle a donc la même forme que les premiers éléments.
Théétète,
sans doute.
Socrate,
et si la syllabe est un assemblage d'éléments et qu'elle fasse un tout dont ils sont les parties, les syllabes et les éléments pourront également se connaître et s'énoncer, puisque nous avons jugé que les parties prises ensemble sont la même chose que le tout.
Théétète,
cela est vrai.
Socrate,
si, au contraire, la syllabe est une et indivisible, aussi bien que l'élément, elle ne tombera pas plus que lui sous l'explication, ni sous la connaissance, car la même cause produira les mêmes effets en eux.
Théétète,
je ne saurais en disconvenir.
Socrate,
ainsi, n'approuvons pas celui qui soutient que la syllabe peut être connue et énoncée et que l'élément ne le peut pas.
Théétète,
il ne le faut point, si nous admettons les raisons qui viennent d'être dites.
Socrate,
mais quoi ? Écouterais-tu davantage celui qui dirait le contraire sur ce que tu sais bien t'être arrivé à toi-même en apprenant les lettres ?
Théétète,
qu'est-ce qui m'est arrivé ?
Socrate,
tu n'as fait autre chose en les apprenant que de t'exercer à distinguer les éléments, soit à la vue, soit à l'ouïe, afin de n'être point embarrassé dans quelque ordre qu'on les prononçât ou qu'on les écrivît.
Théétète,
tu dis très vrai,
Socrate.
Et qu'as-tu tâché d'apprendre parfaitement chez le maître de lyre, sinon à être en état de suivre chaque son et de distinguer de quelle corde il partait, ce que tout le monde reconnaît pour être les éléments de la musique?
Théétète, rien autre chose.
Socrate, s'il faut juger par les syllabes et les éléments que nous connaissons, des syllabes et des éléments que nous ne connaissons pas, nous dirons donc que les éléments peuvent être connus d'une manière plus claire et plus décisive
pour l'intelligence parfaite de chaque science que les syllabes. Et si quelqu'un soutient que la syllabe est de nature à être connue, et l'élément de nature à ne l'être pas, nous croirons qu'il ne parle pas sérieusement, soit qu'il le fasse de propos délibérés ou non. Théétète, sans contredit. Socrate, on pourrait, ce me semble, démontrer encore la même chose de plusieurs autres manières. Mais prenons garde que cela ne nous fasse perdre de vue ce que nous nous sommes proposés d'examiner, savoir ce qu'on entend quand on dit que le jugement vrai accompagné d'explications est la science la plus parfaite. Théétète, c'est ce qu'il faut voir. Socrate, dis-moi donc, que signifie ce mot d'explication ? Il me paraît qu'il signifie une de ces trois choses. Théétète, lesquelles ? Socrate, la première, rendre sa pensée sensible par la voix au moyen des mots, en sorte qu'elle se peigne dans la parole qui sort de la bouche, comme dans un miroir ou dans l'eau. N'est-ce pas là, à ton avis, ce que veut dire explication ? Théétète. Oui, et nous disons que celui qui fait cela s'explique. Socrate. Tout le monde n'est-il point capable de le faire, et d'exprimer plus ou moins promptement ce qu'il pense de chaque chose, à moins qu'on ne soit muet ou sourd de naissance. Et le jugement droit sera toujours accompagné d'explications en ce sens. Dans tous ceux qui pensent vrai sur quelque objet, et jamais le jugement vrai ne se trouvera sans la science. Théétète, tu as raison. Socrate, ainsi n'accusons pas à la légère l'auteur de la définition de la science que nous examinons de n'avoir rien dit qui vaille, car peut-être n'a-t-il pas eu en vue ce que nous lui attribuons, et a-t-il voulu désigner la capacité de rendre compte de chaque chose par les éléments qui la composent lorsqu'on nous interroge sur sa nature. Théétète. Par exemple, Socrate. Socrate. Par exemple, Hésiode dit du char qu'il est composé de 100 pièces. Je ne pourrais pas en faire le dénombrement, ni toi non plus, je pense. Mais si l'on nous demandait ce que c'est qu'un char, nous croirions avoir beaucoup fait de répondre que ce sont des roues, un essieu, des ailes, des jantes, un timon. Théétète. Assurément, Socrate. Mais celui qui nous ferait cette question nous trouverait peut-être aussi ridicule de répondre de cette manière que si, après qu'il nous aurait demandé ton nom et que nous l'aurions dit syllabe par syllabe, nous allions nous imaginer, parce que nous en portons un jugement juste et que nous l'énonçons bien, que nous sommes grammairiens, que nous connaissons et expliquons selon les règles de la grammaire le nom de Théétète. Tandis que ce n'est point là parler en homme qui sait, à moins qu'avec le jugement vrai, on ne rende un compte exact de chaque chose par ses éléments, comme il a été dit précédemment. Théétète. Nous l'avons dit en effet. Socrate. De même, nous portons à la vérité un jugement droit touchant le char. Mais celui qui peut en décrire la nature en parcourant l'une après l'autre toutes ses 100 pièces et qui joint cette connaissance au reste, outre qu'il juge vrai sur le char, en possède encore l'explication et, au lieu d'un simple jugement arbitraire, il parle en artiste et en homme qui sait sur la nature du char, parce qu'il peut faire la description du tout par ses éléments. Théétète. Et ne penses-tu pas qu'il en est ainsi, Socrate ? Socrate. Oui, mon cher ami, si tu crois et si tu accordes que la description d'une chose par ses éléments en est l'explication, et que celle qu'on en fait par les syllabes ou par d'autres parties plus grandes n'explique rien. Dis-moi ton sentiment là-dessus, afin que nous l'examinions.
Tête.
Eh bien, je l'accorde.
Socrate.
Penses-tu aussi qu'on soit savant sur quelque objet que ce puisse être, lorsqu'on rapporte une même chose tantôt au même objet et tantôt à un objet différent, ou qu'on porte sur le même objet tantôt un jugement, tantôt un autre?
Tête.
Non, certes, je ne le pense pas.
Socrate.
Et tu ne te rappelles point que c'est précisément là ce que vous faisiez, toi et les autres, au commencement que vous appreniez les lettres?
Tête.
Veux-tu dire que nous croyions tantôt que telle lettre appartenait à la même syllabe et tantôt telle autre? Et que nous placions la même lettre tantôt à la syllabe qui lui convenait, tantôt à une autre?
Socrate.
Oui, cela même.
Tête.
Par Jupiter, je ne l'ai pas oublié, et je ne tiens pas pour savants ceux qui sont capables de ces méprises.
Socrate.
Mais quoi? Lorsqu'un enfant, dans le même cas où tu étais alors, écrivant le nom de Tête par un TH et un E, croit devoir l'écrire et l'écrit ainsi, et que voulant écrire celui de Théodore, il croit devoir l'écrire et l'écrit par un T et un E, dirons-nous qu'il sait la première syllabe de vos noms?
Tête.
Nous venons de convenir que celui qui est dans ce cas est loin de savoir.
Socrate.
Rien n'empêche-t-il qu'il soit dans le même cas par rapport à la seconde, à la troisième et à la quatrième syllabe?
Tête.
Rien.
Socrate.
Lorsqu'il écrira de suite le nom de Tête, n'emporte-t-il pas un jugement droit avec le détail des éléments qui le composent?
Tête.
Cela est vrai.
Socrate.
En même temps qu'il juge vrai, n'est-il pas encore dépourvu de science, comme nous avons dit?
Tête.
Oui.
Socrate.
Il a pourtant l'explication de ton nom avec un jugement vrai, car il l'a écrit connaissant l'ordre des éléments qui, selon nous, est l'explication du nom.
Tête.
J'en conviens.
Socrate.
Il y a donc, mon cher ami, un jugement droit accompagné d'explications qu'il ne faut point encore appeler science.
Tête.
Ah, il paraît que oui.
Socrate.
Ainsi, nous n'avons, selon toute apparence, été riches qu'en songe, quand nous avons cru tenir la véritable définition de la science. Mais ne nous pressons pas de condamner. Peut-être n'est-ce pas cela qu'on entend par le mot « explication » Et faut-il choisir la troisième et la dernière des idées qu'a pu avoir en vue, disions-nous, celui qui a défini la science, un jugement vrai accompagné d'explications?
Tête.
Tu me le rappelles fort à propos. Il en reste en effet encore une. La première était l'image de la pensée exprimée par la parole. La seconde, qu'on vient de développer, la détermination du tout par les éléments. Et la troisième, quelle est-elle selon toi?
Socrate.
Celle que beaucoup d'autres attacheraient comme moi au mot « explication ». Savoir de pouvoir dire en quoi la chose sur laquelle on nous interroge diffère de toutes les autres.
Tête.
Pourrais-tu m'expliquer ainsi quelque objet?
Socrate.
Oui, le soleil, par exemple. Je crois te le désigner suffisamment en disant que c'est le plus brillant de tous les corps célestes qui tournent autour de la Terre.
Tête.
À merveille.
Socrate.
Écoute pourquoi j'ai dit ceci. Nous venons d'établir que, selon quelques-uns, si tu saisis dans chaque objet sa différence d'avec tous les autres, tu en auras l'explication. Au lieu que, si tu en saisis une qualité commune, tu auras l'explication des objets à qui cette qualité est commune.
Tête.
Je comprends, et il me paraît qu'on fait bien d'appeler cela explication.
Socrate.
Ainsi, lorsque, avec un jugement droit sur un objet quelconque, on connaîtra sa différence d'avec tout autre, on saura ce qu'on n'avait auparavant que jugé.
Théétète.
Nous ne craignons pas de l'assurer.
Socrate.
Maintenant, Théétète, que je suis près de cette définition, je n'y saisis pour mon compte absolument rien, comme devant certains tableaux. Dans l'éloignement, je croyais y voir quelque chose.
Théétète.
Comment ? D'où vient que tu parles de la sorte ?
Socrate.
Je te le dirai si je puis. Lorsque, en même temps que je porte sur toi un jugement droit, je peux encore t'expliquer, je te connais. Sinon, je n'ai qu'un jugement arbitraire.
Théétète.
Oui.
Socrate.
T'expliquer, c'est déterminer ce qui te différencie.
Théétète.
Sans doute.
Socrate.
Lors donc que je ne portais sur toi qu'un simple jugement, n'est-il pas vrai que ma pensée ne saisissait aucun des traits qui te distinguent de tout autre ?
Théétète.
À ce qu'il paraît.
Socrate.
Ainsi, je n'avais dans l'esprit que des qualités communes qui ne sont pas plus les tiennes que celles de tout autre homme.
Théétète.
Nécessairement.
Socrate.
Au nom de Jupiter, dis-moi comment, en ce cas, tu étais l'objet de mon jugement plutôt que tout autre. Suppose en effet que je me représente, Théétète, sous l'image d'un homme qui a un nez, des yeux, une bouche, et ainsi des autres parties du corps. Cette image fera-t-elle que je pense plutôt à Théétète qu'à Théodore, et comme l'on dit, au dernier des Mysiens ?
Théétète.
Non, vraiment.
Socrate.
Si je ne me figure pas seulement un homme avec un nez et des yeux, et que je me représente de plus ce nez Camus et ses yeux sortant de la tête, sera-ce ton image que j'aurai dans l'esprit plutôt que la mienne et celle de tous ceux qui nous ressemblent en cela ?
Théétète.
Nullement.
Socrate.
Je ne me formerai, ce semble, l'image de Théétète que quand sa camardise laissera en moi des traces différentes de toutes les espèces de camardises que j'ai vues, et ainsi de toutes les autres parties qui te composent. En sorte que demain, si je te rencontre, cette camardise te rappelle à mon esprit et me fasse porter de toi un jugement vrai.
Théétète.
Ah, cela est incontestable.
Socrate.
Ainsi, le jugement vrai atteint aussi la différence de chaque objet.
Théétète.
Il y a apparence.
Socrate.
Qu'est-ce donc que signifie expliquer un objet en même temps qu'on en porte un jugement droit ? Car si cela veut dire qu'il faut juger en outre ce qui distingue un objet des autres, c'est nous prescrire une chose tout à fait plaisante.
Théétète.
Pourquoi ?
Socrate.
Parce que c'est nous prescrire de juger avec droiture les objets par rapport à leurs différences, tandis que nous avons déjà ce droit jugement par rapport à leurs différences. Et, de cette sorte, il y a plus d'absurdité en un pareil conseil qu'à prescrire de tourner une citale, un mortier, ou toute autre chose passée en proverbe. On l'appellerait avec plus de raison le conseil d'un aveugle, rien ne ressemblant mieux à un aveuglement complet que d'ordonner de prendre ce qu'on a afin de savoir ce qu'on sait déjà dans le jugement.
Théétète.
Dis-moi, que voulais-tu dire tout à l'heure lorsque tu m'interrogeais ?
Socrate.
Mon enfant, si par expliquer un objet, on entend connaître la différence, et non simplement la juger. L'explication, en ce cas, est ce qu'il y a de plus beau dans la science. Car connaître, c'est avoir la science, n'est-ce pas ?
Théétète.
Oui.
Socrate.
Et si on demande à l'auteur de la définition « qu'est-ce que la science ?» il répondra apparemment que c'est un jugement juste sur un objet avec la science de sa différence. Puisque, selon lui, ajouter l'explication au jugement n'est autre chose que cela.
Théétète.
Apparemment.
Socrate.
C'est donc une réponse un peu niaise quand nous demandons ce que c'est que la science, de nous dire que c'est un jugement droit joint à la science, soit de la différence, soit de toute autre chose.
Ainsi, Théétète,
la science n'est ni la sensation, ni le jugement vrai, ni ce même jugement accompagné d'explications.
Théétète.
Et il paraît que non.
Socrate.
Eh bien, mon cher ami, sommes-nous encore pleins et ressentons-nous encore les douleurs de l'enfantement relativement à la science? Ou avons-nous mis au jour toutes nos conceptions?
Théétète.
Assurément, Socrate, j'ai dit, avec ton aide, bien plus de choses que je n'en avais dans l'âme.
Socrate.
Ah, monarde sage-femme, ne nous apprend-il pas que toutes ces conceptions sont frivoles et indignes qu'on en prenne soin?
Théétète.
Oui, vraiment.
Socrate.
Si donc, par la suite, Théétète, il t'arrive de vouloir produire, et si tu produis en effet, tes fruits seront meilleurs grâce à cette discussion. Et si tu demeures stérile, tu seras moins à charge à ceux avec qui tu converseras, parce que tu seras trop sage pour croire savoir ce que tu ne sais pas. C'est tout ce que mon art peut faire et rien de plus. Je ne sais rien de ce que savent les grands et merveilleux personnages de ce temps et du temps passé. Mais pour le métier de sage-femme, ma mère et moi, nous l'avons reçu de la déesse. Elle pour les femmes, moi pour les jeunes gens qui ont de la noblesse et de la beauté. Maintenant, il faut que je me rende au portique du roi pour répondre à l'accusation que Militus m'a intentée. Mais retrouvons-nous ici, Théodore, demain matin.